L'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Saint-Bertrand-de-Comminges, 94.1.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Présence midi et à quelques jours de la rentrée, elle est en pleine forme. C'est Androse Jankovic que j'ai le plaisir d'accueillir sur notre antenne. Bonjour Androse.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver Gilles.
Exactement, on est très heureux de vous retrouver et retrouver également les auditeurs de Radio Présence à quelques jours donc de cette rentrée radiophonique avec une belle émission en perspective. Le département des Hautes-Pyrénées a désormais un nouveau préfet qui succède à Jean Solomon.
Oui, et c'est une préfète, Sybille Samoyau, qui a été installée hier lundi 24 août. Elle a répondu aux questions de Radio Présence et nous a présenté déjà les axes forts qui l'attendent pour aller les 6 prochains mois.
Et parmi les axes forts, eh bien, on écoutera votre interview dans un instant. Et puis dans cette émission, on parlera également de l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes, avec évidemment un diocèse qui se prépare à la venue du pape Léon XIV.
Effectivement, bien sûr, les fidèles du diocèse de Tarbes et Lourdes se préparent. Les paroisses du diocèse organisent des bus pour venir prier avec le pape. Les paroisses et puis les groupes de cathé, etc. Je vous en parle dans quelques instants dans l'agenda.
Et à partir de 12h30, on parlera de messages, la découverte de la Bible pour adultes.
Exactement, catéchèse biblique pour adultes, c'est une association qui est venue à Lourdes il y a quelques jours en session et qui œuvre toute l'année partout en France. Les responsables de messages sont venus nous expliquer de quoi il s'agit exactement.
Et puis à 12h50, nous avons rendez-vous avec Cédric de l'Office de Tourisme de Lourdes. Est-ce que vous savez combien il y a de lacs dans le département des Hautes-Pyrénées ?
Je n'en ai aucune idée.
Vous ne les avez jamais comptés ?
Je ne les ai pas comptés, mais je les parcours parfois.
Exactement. Plus de 190 lacs dans le département des Hautes-Pyrénées, plus de 10 500 km de rivières, et on va parler donc de la pêche. Le département des Hautes-Pyrénées, évidemment, qui est reconnu au niveau national pour la pêche, on en parlera avec Laurent et Cédric de l'Office de Tourisme de Lourdes. Voilà pour les grandes lignes de ce Présence Midi qui débarque avec l'essentiel de l'actualité régionale. Et c'est Enzo Basile qui est avec nous.
Bonjour à tous, à la une ce mardi, le rectorat de Toulouse toujours perturbé par la cyberattaque contre l'éducation nationale à une semaine de la rentrée scolaire. Plusieurs applications restent mises en sommeil par sécurité, provoquant l'inquiétude des enseignants. En Ariège, les pompiers dénoncent une nouvelle vague d'agression dans la nuit de samedi à dimanche et rappellent que 25 faits similaires ont été déjà recensés depuis le début de l'année. Dans le Lot, découverte macabre à Gourdon, le corps d'un homme de 52 ans a été retrouvé ce lundi matin près de la gare SNCF. Une enquête est ouverte. Côté économie, Airbus recule sur la réduction du télétravail face à la contestation syndicale avec des réactions partagées entre la CGT et la CFE-CGC. Et enfin, à Saint-Gaudens, une offre de reprise a été déposée pour l'usine Fibre Excellence portée par Soprema et la région Occitanie avec le maintien des 270 emplois. Rendez-vous le 8 septembre au tribunal de commerce de Toulouse.
Merci Enzo Basile, on vous retrouve à 12h30 pour développer ces titres dans le journal. À tout à l'heure.
Présence à Salis-du-Salat 94.1.
Rebonjour Androse Jankovic.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Avec vous, on va détailler l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes. Et évidemment, on commence cet agenda avec les paroisses du diocèse qui se préparent pour la venue du pape Léon XIV. Ça approche et c'est dans un mois.
C'est dans un mois tout juste. Et effectivement, les fidèles du diocèse de Tarbes et Lourdes sont évidemment invités à vivre cet événement. Alors, il y a une invitation toute simple, c'est que vraiment, il faut vous manifester auprès du secrétariat de votre paroisse si vous habitez dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, puisque les paroisses organisent des bus pour venir jusqu'à Lourdes le dimanche 27 septembre. Alors à ça, eh bien, il y a pas mal d'avantages, notamment d'abord c'est de vivre la rentrée pastorale en vivant un événement absolument exceptionnel, extraordinaire. Voilà, vivre un temps fort avec la communauté paroissiale. Il n'y a rien de tel, hein, cet événement, cette venue du pape Léon XIV au sanctuaire de Lourdes, à vivre ensemble en communauté, à l'échelle de la communauté paroissiale. C'est vraiment l'idéal pour bien démarrer l'année pastorale. Et puis, il ne faut pas se mentir, Gilles, il y a une facilité logistique aussi, puisque les paroisses organisent des bus pour venir jusqu'à Lourdes le dimanche 27 septembre. Profitez-en, ne vous encombrez pas de votre voiture, n'encombrez pas non plus la ville de Lourdes avec votre voiture. Prenez le bus. Voilà, et puis petit clin d'œil, notre évêque Monseigneur Jean-Marc Mica, l'évêque du diocèse de Tarbes-Lourdes, a prévu une place pour les fidèles du diocèse de Tarbes-Lourdes, assez bien, assez sympa, dans la prairie, là où il y aura la messe, voilà, assez proche du podium où le pape Léon XIV célébrera la messe le dimanche 27 septembre au matin. Donc vraiment, n'hésitez pas, et il est grand temps, manifestez-vous auprès de votre paroisse si vous habitez dans le diocèse de Tarbes-Lourdes pour pouvoir venir prier donc avec le pape Léon XIV, et j'allais dire avec toute l'Église universelle le dimanche 27 septembre.
Voilà, la bonne méthode, vous l'avez dit, hein, pour venir à Lourdes et pour venir assister donc à la messe et à la venue du pape Léon XIV, il faut se rapprocher de sa paroisse, et ça devient maintenant un peu urgent. Hein,
oui, alors effectivement, il y a des paroisses qui ont déjà réservé plusieurs bus, hein, et des paroisses qui laissent encore quelques jours pour s'inscrire, mais vraiment, c'est maintenant qu'il faut le faire, quand même.
Voilà, et puis cet événement, c'est aussi l'occasion de faire la rentrée pour les aumôneries du diocèse de Tarbes-Lourdes.
Effectivement, exemple avec la rentrée des aumôneries des lycéens, étudiants et jeunes pros de Tarbes, qui vivront tout un week-end du vendredi 25 au dimanche 27 septembre. Alors tous ces jeunes seront dès le vendredi 25 septembre à Ossun, au presbytère d'Ossun, et puis évidemment dans leur week-end qui inclura bien évidemment des temps de fêtes, de retrouvailles, mais aussi de prières. Il y aura bien sûr la journée du dimanche 27 septembre au sanctuaire de Lourdes. Donc ce rendez-vous, c'est une aubaine évidemment pour rentrer, faire la rentrée de l'aumônerie pour tous ces jeunes lycéens, étudiants et jeunes pros. Pour s'inscrire, c'est effectivement dès à présent, encore une fois pour ces jeunes, il faut aller sur l'application Au Clocher voilà, du diocèse ou de la paroisse de Tarbes, et vous trouvez toutes les informations. Mais voilà, c'est un rendez-vous aussi exceptionnel pour ces jeunes qui pourront vivre tout un week-end avec ce temps fort à Lourdes le dimanche 27 septembre.
Voilà, et la veille, le pape Léon XIV va prier à la grotte de Lourdes, hein, le samedi soir, et les jeunes du diocèse ont rendez-vous avec un premier rendez-vous. Hein,
oui, effectivement. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup du dimanche 27 septembre, mais en effet, c'est déjà un rendez-vous le samedi 26 septembre, puisque le pape Léon XIV, en arrivant à Lourdes, viendra prier à la grotte. Là encore, les fidèles se mobilisent et s'organisent. Alors, je vous propose un exemple avec cette catéchiste de Lannemezan qui s'apprête, elle, à faire vivre aux enfants du caté de sa paroisse une rentrée assez hors norme. Prier à Lourdes avec le Saint-Père, c'est tout de même peu banal pour ces enfants du caté. Je vous propose d'écouter comment elle prépare cet événement. Bonjour Danielle Todo-Priva.
Bonjour madame.
Vous êtes catéchiste pour la paroisse de Lannemezan dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, et vous vous apprêtez, vous aussi, comme tous les fidèles du diocèse de Tarbes et Lourdes, à recevoir le pape Léon XIV au sanctuaire de Lourdes. Vous avez prévu de vous y rendre, de venir prier avec les enfants au sanctuaire de Lourdes. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se prépare cet événement pour vous ?
Alors, on a appris il n'y a pas très longtemps, donc, par l'intermédiaire de Sœur Eugénie, qui préside la catéchèse dans notre diocèse, qu'il y avait une possibilité d'amener les enfants le samedi soir au sanctuaire de Lourdes, un peu en VIP, pour accompagner le Saint-Père dans sa prière quand il va arriver à la grotte. Et donc, ça c'est formidable, parce que les enfants auront l'occasion de voir le Saint-Père de près, et ça sera plus signifiant pour eux que la grande messe du lendemain, qui va demander quand même des heures d'attente, ils seront loin.
C'est-à-dire un moment un peu plus presque intime, en tous les cas prière vraiment de proximité avec le Saint-Père.
Voilà, une prière de proximité, et donc nous, on va les préparer à ça. Par exemple, moi j'avais pensé à l'évangile de dimanche dernier, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, pour leur faire comprendre que le pape est le successeur de Pierre, et comment ça s'est passé. Et donc c'est avec cet évangile de dimanche dernier, qui tombe vraiment bien en ce mois d'août, qu'on va les préparer, qu'on va leur montrer une image de Saint-Pierre avec les clés, et de parler du Saint-Père ensuite, de tous les papes qui se sont succédés. Voilà. Et puis après, présenter aussi Léon XIV, d'où il vient, quelles sont ses priorités sur la vie, sur ses combats actuels.
Alors, la rentrée dans les paroisses n'est pas encore passée, donc la rentrée du caté non plus. Les enfants que vous avez l'intention d'emmener au sanctuaire de Lourdes pour donc prier avec le pape, ils sont déjà au courant qu'ils vont vivre cet événement ou ils vont le savoir dans quelques jours ?
Pas du tout. Ils vont le savoir dans quelques jours parce que nous, le catéchisme va commencer dès le mois de septembre. Donc, heureusement que le Saint-Père n'arrive pas en plein mois d'août parce qu'on n'aurait pas pu les préparer. Donc là, c'est une grâce de plus. Donc, nous, en septembre, le caté commence. On a commencé à en parler autour de nous à la sortie de la messe, mais pour l'instant, toutes les familles n'étaient pas encore rentrées de vacances. Donc, ceux à qui on en a parlé étaient très contents. Donc voilà, après, on va organiser du covoiturage.
Il y a combien d'enfants, Daniel Todoprivat ?
Alors, on a 25 enfants catéchisés.
Donc, ça va de 7 ans à...
À 12 ans à peu près, voilà. Et puis après, il y a toutes sortes, il y a une quinzaine de jeunes qui vont faire partie d'une aumônerie qui se met en place dès le mois de septembre. Enfin, on est très contents de ça depuis le temps qu'on travaille à cette aumônerie. Donc il y a une quinzaine de jeunes aussi qui peut-être accompagneront samedi soir. Mais je pense de préférence dimanche matin leur famille pour aller voir le Saint-Père.
Voilà, en tous les cas, 25.
On a 25 enfants, oui, dans le primaire et dans le début du secondaire. Oui, oui.
Voilà, 25 enfants de la paroisse du Pays de l'Annemezan qui viendront donc prier le samedi soir avec le Saint-Père au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Ma dernière question, Daniel Todoprivat, c'est peut-être plus personnel pour vous qui êtes catéchiste. Donc, qu'est-ce que ça vous fait de venir au sanctuaire avec ces enfants ? On peut imaginer que vous pourriez venir seul. Après tout, vous seriez peut-être plus tranquille. Vous faites le choix d'organiser. Il y a toute une question logistique derrière. Voilà, dans quel état d'esprit vous êtes ?
Alors, moi, je pense, comme beaucoup de gens, que la foi se vit pas seule, qu'elle se partage. Oui, c'est vraiment une joie et une excitation de préparer ça, de revenir le lendemain avec les paroissiens de l'Annemezan et des villages environnants. Ça va être vraiment deux journées très riches en émotions et quelle chance que nous avons de préparer tout ça. C'est pas du tout une corvée, au contraire.
Merci beaucoup pour votre témoignage. On vous souhaite de très bons préparatifs et puis on vous retrouve au sanctuaire de Lourdes avec le pape Léon XIV à la fin du mois de septembre.
Oui, avec joie. Merci, madame.
Merci.
Voilà, on retiendra cette phrase. Hein. Quelle chance que nous avons. Hein.
Mais oui, c'est beau d'entendre l'enthousiasme là. Voilà, ça monte dans les cœurs. Il y a le côté pratique. Bon, effectivement, il faut organiser les choses. Mais c'est beau aussi de voir que ça se prépare dans les cœurs. Et là, c'est un beau témoignage. Et on va vous en faire écouter tout un tas tout au long du mois de septembre pour que vous sentiez à quel point les fidèles du diocèse et les fidèles de la province ecclésiastique se mobilisent et se préparent vraiment à prier avec le pape Léon XIV au sanctuaire de Lourdes.
Voilà, on l'a compris. Pour les gens du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, il faut se rapprocher. Sa paroisse pour s'inscrire et puis c'est également valable pour toutes les personnes qui nous écoutent dans notre région que vraiment se rapprocher des paroisses et du diocèse.
Exactement.
Voilà, évidemment, Radio Présence va se mobiliser ce week-end-là, même plus largement, pour couvrir l'intégralité de la visite du pape Léon XIV en France, dès Paris, Lourdes, évidemment Metz.
Évidemment, puisque c'est 4 jours de rendez-vous, de mots très importants que l'on attend de la part du Saint-Père. Et effectivement, toutes les équipes de Radio Présence de toute la région se mobilisent déjà pour s'organiser et vous préparer des émissions en direct avec des invités, et pas mal de reportages. Et de sujets qui vont vous permettre de vivre pleinement cet événement.
Voyage apostolique donc du pape Léon XIV en France. On poursuit l'agenda du diocèse de Tarbes-et-Lourdes parce qu'il se passe quand même d'autres choses dans le diocèse et même bien avant, avec une journée très importante, une journée diocésaine pour les jeunes et une ordination diaconale. La date, elle approche, c'est dimanche 6 septembre.
Dimanche 6 septembre, journée diocésaine des jeunes de 7 à 35 ans. Tous les enfants et les jeunes du diocèse de Tarbes-et-Lourdes sont invités à vivre toute une journée de prières, de jeux, d'ateliers, de fêtes également, dimanche 6 septembre, donc à la maison Saint-Paul, c'est la maison diocésaine à Tarbes, à partir de 10h le matin jusqu'à 15h. C'est une journée coordonnée par le pôle annonce de la foi du diocèse, mais préparée surtout dans tous les ateliers, préparée par les jeunes pour les jeunes. Donc déjà depuis des semaines, même des mois, des jeunes sont en train de travailler pour cette journée diocésaine et pour accueillir donc les enfants de 7 à 35 ans, les enfants, les ados et les plus grands de 7 à 35 ans, donc pour vivre cette journée exceptionnelle, une journée exceptionnelle qui se terminera par la messe d'ordination diaconale de l'un de nos séminaristes, Corentin Laguinze, qui sera donc ordonné diacre à 16h dimanche 6 septembre à la cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes. Voilà, c'est un rendez-vous vraiment très, très important pour tous ces jeunes qui s'inscrivent ainsi vraiment dans les orientations pastorales de notre évêque, Monseigneur Jean-Marc Mika, puisqu'effectivement, ces orientations pastorales, elles ne sont pas faites que pour les grands. Les jeunes et les enfants ont toute leur place dans le projet pastoral de notre diocèse de Tarbes et Luande.
Voilà, retenez cette date, dimanche 6 septembre. Direction maintenant la Vallée d'Or avec un rendez-vous qui va jalonner l'année pastorale en Vallée d'Or.
Exactement, il s'agit d'un rendez-vous pour partager l'Évangile. C'est un rendez-vous qui a lieu tous les jeudis dans la salle du catéchisme à Saint-Lary à partir de 17h et c'est ouvert à toutes les personnes qui veulent se plonger dans les Évangiles. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes du côté des Vallées d'Or et du Louron à vous rendre à ce rendez-vous. Rejoignez donc l'équipe paroissiale pour plonger dans les Écritures.
Est-ce qu'on termine cet agenda avec deux autres pèlerinages dans nos sanctuaires?
Effectivement, puisque vous savez qu'on a beaucoup parlé du sanctuaire de Lourdes, c'est très important, mais il y a d'autres sanctuaires mariales dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, et notamment vous avez rendez-vous ce mois de septembre, samedi 5 septembre au sanctuaire Notre-Dame d'Eas pour le pèlerinage annuel à Notre-Dame d'Eas et puis le dimanche 13 septembre le pèlerinage annuel du couronnement de la Vierge au sanctuaire Notre-Dame de Garaison. Voilà, ça je vous les annonce mais je vous donnerai le programme en détail dans quelques jours.
Eh bien voilà, ça sera l'occasion de nous retrouver à Andros Jankovic pour de nouveau évoquer l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes. Mais c'est toujours un plaisir de vous accueillir, vous le savez. Les micros sont toujours ouverts.
Je vous ai tendu la perche pour que vous me disiez
exactement.
Ça.
Faudra juste qu'on change la chaise parce qu'elle fait quand même du
oui,
bruit,
pardon,
votre chaise.
C'est vrai que là.
Voilà, ça sera peut-être un des défis de la rentrée, trouver une nouvelle chaise pour Andros.
C'est gentil.
Allez, voilà pour l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes. Cette actualité, on la retrouve sur catholique65.fr et au clocher.
Oui, tout à fait, sur le site du diocèse, sur l'application Clocher, dans le bulletin diocésain. Voilà, vous avez toutes les infos, des infos qui sont bien relayées, largement relayées aussi par les secrétariats paroissiaux qui font un boulot exceptionnel. Allez, clin d'œil aux secrétaires des paroisses qui font aussi leur rentrée et qui ont aussi du boulot.
Exactement, les saluts, si elles nous écoutent. Merci beaucoup, Andros Jankovic.
Merci à vous.
Radio Présence, dans le Tarn-et-Garonne. 93.3.
Et Anne-Rose, vous restez avec nous puisque dans un instant, on va parler du département des Hautes-Pyrénées, le département qui a désormais une nouvelle préfète. On vous retrouve dans un instant pour
oui,
en parler.
Sybille Samoyau qui a été installée préfète des Hautes-Pyrénées hier, ce lundi 24 août.
Allez, on en prend dans 3 minutes.
Et qu'importe le temps, et qu'importe. Et j'avance en titubant, oui j'avance en titubant. Comment te dire ce que je ressens? Comment faire pour faire autrement que ça? Et qu'importe le bruit, et qu'importe la pluie. Et j'avance dans la nuit, oui j'avance dans la nuit. Comment ne plus jamais t'aimer ainsi? Comment faire pour que je t'oublie? Dis-le-moi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Voilà, voilà, voilà. Et c'est bien fait pour moi, oui c'est bien fait pour moi. Comment fait-on pour s'éloigner de soi? Comment sort-on de ses propres pas? Dites-moi. Quand soudain
sous le vent, sous le bruit de la pluie, sous la nuit titubant, titubant, sous j'ai fui. Je suis parti pour mauvaise raison, je suis parti loin de la maison, et depuis. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Voilà, voilà.
Sur natif de Tarbes, le groupe Boulevard des Déserts à l'instant avec Je me dis que toi aussi.
Radio Présence à Saint-Céré, 95.8.
Le département des Hautes-Pyrénées a désormais une nouvelle préfète qui succède à Jean Solomon.
Des élus, des personnalités civiles et militaires et religieuses, parmi lesquelles Mgr Jean-Marc Mika, était présent lundi 24 août pour la cérémonie d'installation de la nouvelle préfète des Hautes-Pyrénées. Sybille Samoyau a été nommée à cette fonction le 22 juillet dernier par le président de la République en Conseil des ministres. Elle connaît les Hautes-Pyrénées puisqu'elle a été dans le passé sous-préfète de Tarbes et secrétaire générale de la préfecture. Après s'en être éloignée pendant 4 ans et avoir occupé entre-temps le poste de chef de cabinet adjointe pour le président Macron, elle revient donc dans ce territoire qui a bien évidemment évolué un peu et changé au cours de ces dernières années. Sybille Samoyau.
Effectivement, pour moi, c'est un retour puisque j'ai déjà exercé dans les Hautes-Pyrénées il y a 4 ans. Mais depuis 4 ans, effectivement, vous l'avez dit, le territoire a évolué, les élections ont été conduites et donc les élus ont changé également. Et surtout, par rapport à ma fonction nouvelle, c'est vraiment un changement d'échelle puisque quand j'étais dans le département, j'étais sur l'arrondissement de Tarbes. Là, les fonctions de préfète, c'est des fonctions sur l'ensemble du département. C'est une représentation de l'État cette représentation de l'État, elle est sur l'ensemble du territoire départemental. Et donc, elle ne s'arrête pas aux limites de l'arrondissement de Tarbes, mais vraiment englobe l'arrondissement d'Argelès-Gazost et l'arrondissement de Bagnères également. Donc, l'ensemble du territoire pour l'ensemble des habitants des Hautes-Pyrénées.
Ça veut dire de la ville, Tarbes, des villes beaucoup plus moyennes, beaucoup de petits villages, de la plaine, de la montagne. Donc il y a toutes ces réalités très diverses aussi dans tout ce territoire où vous allez servir à présent.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que je suis très heureuse de retrouver bien sûr la montagne, mais également aussi les coteaux et la plaine avec des spécificités de ces territoires, une attractivité différente aussi et avec des enjeux de développement et des enjeux de mutation qui sont sur chacun des territoires différents, mais en même temps avec une cohérence départementale qu'il faut vraiment avoir toujours à l'esprit.
Pour vous, c'est quoi les vrais atouts économiques de notre territoire ?
Alors le territoire est un territoire qui est agricole, mais également un territoire avec une forte dynamique d'emploi industriel. Et puis l'attractivité, c'est aussi bien sûr l'attractivité touristique, que ce soit le tourisme de pèlerinage avec Lourdes ou le tourisme de montagne avec la question du 4 saisons et du développement du tourisme en montagne, que ce soit l'hiver ou l'été.
Sybille Samoyau se présente comme une femme de terrain qui souhaite aller à la rencontre de tous les acteurs locaux et se plonger sans plus tarder dans les gros dossiers du moment avec en haut de la pile l'avenue du Saint-Père à Lourdes bien sûr, mais pas seulement. D'ailleurs, pour son tout premier déplacement, la préfète aurait pu choisir par exemple le sanctuaire de Lourdes, le quartier parfois sensible de l'Arsenal, le pic du Midi en passe d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, les forges de Tarbes fragilisées depuis qu'Europlasma a annoncé leur revente ou que sais-je encore. Mais non, Sybille Samoyau se rend ce mardi 25 août dans une exploitation agricole où elle devrait rencontrer les syndicats agricoles. Elle nous explique son choix.
les agriculteurs aujourd'hui font face à une situation exceptionnelle de sécheresse et de canicule qui a un impact fort hein, sur l'ensemble des exploitations, que ce soit dans la plaine ou dans la montagne. Et donc, je voulais vraiment pouvoir aller au contact sur mon premier déplacement, au contact des agriculteurs, de comprendre quels sont les enjeux et les demandes hein, pour pouvoir faire face à cet événement climatique exceptionnel et quels seraient les leviers aussi pour avancer dans le futur sur de nouvelles formes aussi peut-être d'exploitation. Et donc on est réunis, l'ensemble des préfets sont réunis par la ministre de l'Agriculture jeudi, et donc ma volonté c'était vraiment de pouvoir me déplacer, de pouvoir faire remonter aussi à la ministre vraiment les demandes et les attentes du territoire pour nourrir justement le dialogue avec le gouvernement et de voir comment on peut faire face à cette situation exceptionnelle.
Donc le monde agricole, est-ce qu'il y a d'autres axes prioritaires forts que vous avez déjà en tête pour les 6 prochains mois?
Peut-être avant d'aller jusqu'aux 6 prochains mois, aller jusqu'à la fin du mois de septembre, alors même si nous sommes encore au mois d'août, mais dans... pas tout à fait, enfin, un petit peu plus qu'à moi. On a une visite qui est très importante pour le territoire avec une population qui va venir à la rencontre donc du pape qui vient pendant 3 jours dans le département, donc qui va entraîner aussi, même s'il y a énormément de travail qui a été fait par mon prédécesseur et par tous les services de l'État, il y a encore sur la dernière ligne droite beaucoup de points à finaliser hein, pour que cette visite soit réussie. Et donc je vais passer sans doute beaucoup de temps à la préparation de cet événement majeur, en sachant que très vite, sans doute la semaine prochaine, on fera une conférence de presse dédiée pour justement l'ensemble des dispositifs qui vont être mis en œuvre pour nos concitoyens qui souhaiteraient se rendre à Lourdes pour cet événement.
Donc la sécurité pour l'avenue du Saint-Père au sanctuaire de Lourdes, la priorité du moment et la priorité du mois de septembre.
Alors oui, mais aussi, bien sûr, vous avez évoqué d'autres dossiers, hein, puisque le travail du préfet est un travail global à l'échelle du territoire du département et à disposition de tous les acteurs. Donc il y a, vous l'avez évoqué, la question aussi de la candidature du Pic du Midi, puisque la mission d'inspection et d'évaluation va venir sur le territoire. Donc ça, c'est un dossier important. Et puis tous les dossiers qui ont été suivis par mon prédécesseur et qui doivent continuer leur chemin, et donc avec l'attention que je pourrais aussi apporter à tous ces dossiers, bien sûr, dans mon installation et au fur et à mesure dans les 6 mois que vous avez évoqués.
Dans quel état d'esprit vous êtes là au moment où vous prenez vos fonctions, Madame la Préfète? Quelles compétences vous avez envie de mettre au service des Hauts-Pyrénéens, puisqu'on entend que vous êtes là au service de l'État, mais au service des citoyens?
Alors, moi, je suis quelqu'un qui est très déterminé, qui est très engagé. Donc, cet engagement, je l'ai en moi, beaucoup d'énergie. Et donc, cette énergie, je vais la développer pour le territoire. Et je suis quelqu'un qui aime le dialogue. Je m'appuie beaucoup sur les avis des acteurs. J'aime être sur le terrain. J'ai une formation d'architecte. J'ai besoin de voir dans l'espace. Donc, c'est vrai que j'aime être sur le terrain, pouvoir voir sur place avec les acteurs, prendre les avis et puis de pouvoir après décider avec l'ensemble de ces avis. Et c'est plutôt ma façon de travailler.
On peut s'attendre donc à vous voir régulièrement en déplacement, pas seulement en montagne, mais aussi les coteaux, la plaine, à la rencontre des élus et de différents acteurs locaux, le monde économique, associatif, culturel, enfin voilà, on va rencontrer notre préfète sur le terrain.
Oui, en tout cas, c'est vraiment mon souhait, et en tout cas, vous vouliez savoir quel était un peu mon sentiment aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir pu prendre mes fonctions, et très, très honorée des fonctions qui me sont confiées.
Voilà donc pour l'installation de la nouvelle préfète des Hautes-Pyrénées, qui est visiblement très heureuse de retrouver la Bigorre et ses vallées.
Merci Anne-Rose Jankovic.
Présence dans la vallée du Lot. 92.5.
Vous restez avec nous. Dans un instant, Anne-Rose, on va parler d'un tout autre sujet. On va parler de la découverte de la Bible pour adultes.
La catéchèse biblique pour adultes avec l'association Message. Trois personnes de cette association sont venues nous présenter leur mouvement, leur engagement au micro de Radio Présence à l'occasion d'une session vécue à Lourdes il y a quelques jours.
Mais pour le moment, il est exactement 12h30 sur les pendules de Radio Présence et à la mi-journée, enfin un point complet sur l'actualité régionale avec Enzo Basile. Bonjour Enzo.
Bonjour à tous. Pour commencer ce journal, à une semaine de la rentrée scolaire, le rectorat de Toulouse reste perturbé par la cyberattaque qui a visé le ministère de l'Éducation nationale fin juillet. Depuis la semaine dernière, plusieurs applications informatiques de l'Académie, Messagerie, Portail Arena, e-prof ou encore Siècle ont été mises en sommeil par mesure de sécurité, provoquant l'incompréhension et l'inquiétude des enseignants et des personnels qui peinent à préparer la rentrée. Le ministère, qui n'a relevé l'instruction que le 31 juillet, a porté plainte auprès de la CNIL. L'attaque a été revendiquée le 17 août par un groupe de pirates Zero Bytes qui affirme détenir des données d'élèves. Une enquête judiciaire est en cours. Dans l'Ariège, touche pas à mon pompier, le SDIS hausse le ton après une nouvelle vague d'agressions. Dans un message publié sur les réseaux sociaux ce lundi, les pompiers dénoncent des agressions verbales et physiques survenues dans la nuit de samedi à dimanche, commises à la fois par des témoins présents sur les lieux et par des victimes qu'ils venaient secourir. Une plainte a été déposée au commissariat de Pamiers. Le SDIS rappelle que 25 faits d'agression ou d'incivilité ont déjà été recensés depuis le début de l'année 2026 contre des sapeurs-pompiers dans le département et assure que les dépôts de plaintes sont désormais systématiques. Découverte macabre à Gourdon, le corps d'un homme a été retrouvé ce lundi matin par un passant à proximité de la gare SNCF. Selon le parquet de Cahors, il s'agit d'un homme de 52 ans sans domicile fixe, dont le corps ne présente aucune trace de coup. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie locale et une autopsie sera pratiquée pour déterminer les causes de la mort. Airbus recule sur la réduction du télétravail face à la contestation syndicale. La direction du groupe aéronautique, dont le siège est à Blagnac, a annoncé ce lundi renoncer provisoirement à réduire le télétravail 2 à 1 jour par semaine. Mesure initialement prévue au 1er septembre par le PDG Guillaume Faury. Un porte-parole évoque une transition plus progressive, tout en maintenant la volonté du groupe de renforcer la présence sur site. Les réactions syndicales restent partagées. La CGT dénonce un simple exercice de communication et redoute un sursis, tandis que la CFE-CGC salue une victoire du dialogue social, tout en restant vigilante sur l'application de l'accord de 2024 valable jusqu'en 2028. Une offre de reprise a été déposée dans les temps pour l'usine Fibre Excellence de Saint-Gaudens. Peu avant leur limite ce lundi, un groupement d'entreprises mené par Soprema, spécialisé dans les isolants à base de bois et associé à la région Occitanie, a présenté au tribunal de commerce de Toulouse un projet de reprise du site. Représentant 90 millions d'euros d'investissement, le plan prévoit de conserver les 270 emplois actuels et s'appuie sur au moins un papetier dont le nom n'a pas encore été dévoilé. La région Occitanie est prête à injecter 5 millions d'euros dans le projet, salué par la CGT comme positif. Le groupement a jusqu'au 3 septembre pour finaliser son offre avant une audience devant le tribunal de commerce le 8 septembre. Et pour conclure ce journal, en Haute-Garonne, le bilan touristique est mitigé pour le mois de juillet. Les réservations sont en baisse de 10,7% par rapport à 2025. Les fortes chaleurs ayant poussé de nombreux vacanciers à annuler leur séjour en ville. Mais ceux qui ont maintenu leur venue se sont tournés vers les lacs, la montagne et la campagne où les activités nautiques ont eu la cote. Résultat, le chiffre d'affaires de la centrale de réservation progresse de 17,8% par rapport à 2024, porté par des séjours plus longs et des dépenses en hausse.
Merci Enzo Basile. Retour de l'info sur notre antenne dans moins d'une demi-heure à 13h avec la rédaction française de Radio Vatican pour le journal national et international. Avec plus de 2500 km de rivières pour pêcher, le département des Hautes-Pyrénées est reconnu au niveau national pour la pêche avec également plus de 190 lacs. Et pour nous en parler, c'est Cédric de l'Office de tourisme de Lourdes qui sera avec nous aux alentours de 12h50.
Radio Présence se mobilise pour la venue du pape Léon XIV. Émission spéciale, reportage, retransmission. Suivez du vendredi 25 au lundi 28 septembre la venue du pape Léon XIV en France sur Radio Présence. Présence.
Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus à l'écoute de Présence Midi. À 12h34, on retrouve Anne-Rose Jankovic.
Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir une association, un mouvement, la session Message qui se déroule à Lourdes, qui s'est déroulée à Lourdes du 17 au 22 août. C'est l'occasion pour nous de rencontrer les personnes qui sont chevilles ouvrières de ce mouvement et de découvrir un petit peu ce qu'elles sont venues vivre ici dans la cité mariale. J'ai pour en parler trois invités à mon micro, Martine Lucas, Jane Lorette et Charbel. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous allez nous expliquer ce que vous venez faire ici à Lourdes. Vous êtes au centre Assomption pour quelques jours. Avant de parler un petit peu de cette session cheminée dans la foi avec les femmes de la Bible, c'est ce que vous êtes en train de décortiquer ces jours-ci. On va d'abord s'intéresser à votre mouvement, à votre association Message. Ça s'écrit M-E-2-S-A-J-E. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Peut-être avec vous d'abord, Martine Lucas. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'historique succinctement, mais surtout l'objectif de ce mouvement Message?
Alors, on va plutôt parler d'une association qui est créée pour faire de la catéchèse biblique pour les adultes. Catéchèse biblique pour les adultes. Et ça s'appelle Message avec un J parce qu'il y a Jésus dedans. Voilà. Et cette catéchèse a été créée par Jacques Bernard il y a plus de 50 ans dans son diocèse. Et il a mis au point, son objectif c'était de faire un lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce qu'à l'époque c'était très séparé. Et ce qui permet de bien faire connaître Jésus comme juif. L'objectif c'est de découvrir l'histoire de la foi du peuple d'Israël. Depuis le tout début de ce début de foi en Israël jusqu'à nous aujourd'hui.
Et alors ça s'adresse à qui exactement? À des adultes, mais quel genre d'adulte?
Alors, quand on dit catéchèse, catéchèse, c'est que ça fait écho dans le cœur de quelqu'un. Donc ça peut s'adresser à tout le monde.
Oui, c'est pas catéchèse dans le sens aux personnes qui démarrent et...
Eh non, souvent on pense catéchèse pour enfants, les enfants démarrent, mais on pourrait faire de la catéchèse toute sa vie, parce que toute la vie... Toute notre vie, la parole de Dieu fait écho dans notre vie à nous. Et donc cette catéchèse peut s'adresser à des chrétiens qui ont besoin de se nourrir, à des gens qui tout à coup se tournent vers la foi comme les catéchumènes, et tout à coup à quelqu'un qui veut découvrir tout, parce qu'on va leur parler de tout, on va leur faire découvrir l'amour de Dieu dans toute la Bible.
Et alors cette association existe un petit peu partout en France, comment ça se passe ?
Alors ça s'est créé d'abord à Lille et ça s'est diffusé par petit à petit au gré des personnes. On n'a pas un maillage organisé. Donc il y en a dans différents coins de France, Strasbourg, Lille, le Sud-Est,
Nantes.
Parce que
vous, Martine Lucas, vous êtes présidente de l'association, vous êtes plutôt du côté de Nantes, mais à côté de vous, Jane, vous êtes animatrice de Messages, vous venez plutôt...
Moi je suis à Carcassonne.
À Carcassonne, oui, et puis Charbel, encore une autre région, vous venez du Nord, plutôt du Nord, donc... voilà, il y a un maillage avec Messages.
Petit à petit.
Sans vouloir faire de rime.
Voilà, et ça s'est tellement répandu que des gens de pays étrangers en ont entendu parler, ou des gens de France sont allés par hasard à l'étranger et ont continué à proposer ça. Donc ça a été traduit en arabe, ça a été traduit en polonais, en lituanien, en anglais pour le Canada. Et il y a des gens qui travaillent avec des Africains aussi pour diffuser cette catéchèse.
Alors concrètement, comment ça se passe? Parce que pour plonger, comme vous le dites, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il faut, si ce n'est être chevronné, être au moins accompagné. Est-ce que tout le monde peut s'y mettre? Est-ce que tout le monde peut avoir les clés pour démarrer, pour mettre le nez dans cette Bible?
D'abord, l'animateur est formé. Les animateurs sont formés.
C'est très important de le dire.
Bien sûr, très bien formés.
Et qui les forme ?
Alors, il y avait autrefois une école dans une faculté théologique. Maintenant, c'est plus tout à fait pareil. C'est des formations à distance par des formateurs de messages, des exégètes, des formateurs laïcs, et qui nous initient à la Bible, qui nous initient à l'animation, et qui nous initient aussi à la vie, à l'animation de groupe.
Oui, Charbel.
Oui, est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Je crois, justement, moi, au début, donc j'ai découvert, et j'y ai emmené à une session de catéchèse, j'ai emmené mes sœurs, j'ai emmené quelques amis qui, eux, n'avaient aucune culture biblique ou qui n'avaient même pas lu les évangiles. Et effectivement, je crois que c'est ça aussi qui m'a attiré, c'est que ça parle très fortement à des gens qui n'ont, aujourd'hui, ou... pas forcément de culture biblique.
Qu'est-ce que ça change d'être en groupe, cette lecture de la Bible? Elle peut être individuelle. D'abord, vous le disiez tout à l'heure, Martine Lucas, qu'elle nous rejoint dans nos vies personnelles. Ça veut dire qu'il y a quand même une part d'intime. Quel sens ça a de le faire en groupe?
Alors, je voudrais bien répondre parce qu'en fait, Message s'appuie d'abord, et avant tout pour moi, en tout cas dans ce que j'anime sur mon diocèse, ça s'appuie sur ce qu'on appelle un montage audiovisuel ou un diaporama qui est de toute beauté. Et ce montage fait appel vraiment à tous les sens, au sens de la musique, parce que les musiques de messages sont particulièrement étudiées, elles sont très belles et sont très théologiques, composées par un théologien qui était aussi musicien. Et puis il y a un contenu artistique aussi au niveau photographique. Et puis surtout au niveau de la peinture. Et les peintures des montages messages ont été pour la plupart peint par un artiste peintre qui s'appelle Françoise Burtz, qui a vraiment donné, qui est aussi docteur en théologie, et qui a vraiment donné son œuvre à cette catéchèse. Parce que, bon, quand vous allez dans une église, vous allez voir un joli vitrail, c'est aussi une catéchèse. Vous pouvez apprendre énormément de choses sur la vie.
Il faut que ce soit beau.
Sur la vie. Oui, il faut que ce soit beau, exactement. Ça passe par la beauté. Et ça passe, pas seulement par la beauté, parce que en fin de compte, le montage. Et puis oui, j'ai parlé de la musique, mais je ne vais pas parler des textes, hein, parce qu'il y a aussi les textes qui sont particulièrement poétiques, qui nous amènent aussi au cœur du message là, avec message écrit normalement, qui nous amène au cœur du message de message qui est donc biblique et qui nous aide à entrer dans ces textes bibliques qui sont parfois difficiles à comprendre, difficiles à accepter.
Vous, Charbel, ça vous a aidé à mieux comprendre la parole de Dieu
de... La grande originalité en fait de cette méthode, c'est vraiment de traverser l'expérience d'Israël en quatre seuils, en fait, en seuils de foi. Et ces seuils de foi, c'est ça moi qui m'a beaucoup aidé, qui je trouve est vraiment très fort, c'est de traverser cette histoire par ces seuils, c'est traverser de seuils qui se retrouvent donc dans cette histoire biblique, dans l'histoire du peuple d'Israël tel qu'il les a traversés, mais aussi dans nos vies à nous, dans notre histoire à nous. Et donc il y a cet aller-retour et qui est je trouve très fort, donc vraiment cette démarche de seuil par seuil.
Alors ça, c'est une méthode particulière, parce que c'est vrai que quand on parle de la Bible, de la parole de Dieu, on peut se dire il y a 10 000 manières d'y entrer et de s'en imprégner. Ça, c'est très important, visiblement, pour vous.
Sur le mot seuil, ça montre le tout début d'une expérience de foi. Comment ils vont être en alliance avec leur Dieu, comment il y aura des hauts, des bas, des infidélités, des retours, des découvertes, et comment Jésus va arriver là. Après, on va découvrir toute l'histoire. Jésus a toute cette histoire derrière lui. Et quand Jésus est là, sur terre, et quand après il meurt et ressuscite, il y a encore une suite. Et il y a les apôtres. C'est ce qu'on a, là, on arrive au quatrième seuil, hein, même si je n'ai pas détaillé les premiers. Mais nous, on est là encore dans cette suite. Du coup, vous parliez du groupe tout à l'heure. Ça rejoint mon expérience personnelle, mais le fait de le vivre en groupe, on comprend aussi que ça rejoint l'expérience d'autres. Si ce n'est pas la mienne, c'est celle des autres. C'est notre expérience à tous.
Maintenant. Ça veut dire que pendant vos sessions, alors il y a un côté un peu, alors c'est peut-être pas le bon mot, mais un peu scolaire, théorique, et puis il y a quand même la place à la parole. Est-ce que chacun peut dire ce qu'il ressent, ce qu'il expérimente?
Oui, c'est terriblement important. Justement, Message n'est pas un cours.
C'est pas scolaire.
Ce n'est pas scolaire du tout.
Ah là, j'ai piqué le...
Exactement, c'est ça. Et je reviens un petit peu sur le montage, parce que finalement, qui qu'on soit, même si on est très loin de la foi, on peut regarder une image et on peut être ému par une image. On peut comprendre l'image sans avoir le moindre connaissance théologique ni biblique. D'ailleurs, je suis toujours étonnée de voir des personnes qui viennent dans nos groupes et qui nous disent toute la théologie d'une séquence à travers une image, à travers un son, à travers justement le texte qui leur a parlé. Et c'est là où
c'est pas seulement l'intellect.
Et la participation de chaque membre du groupe est très importante.
Ce sont des groupes de combien de personnes ?
Ça peut dépendre. Là, il y avait, on était une dizaine. Là, on est à peu près 80.
Là, c'est une session.
C'est une session, ce que vous dites en ce moment. Mais c'est-à-dire que quand même, dans chaque groupe, chacun a la possibilité d'être suffisamment à l'aise pour exprimer ce qu'il a sur le cœur à travers la parole de Dieu.
Sur le terrain, je dirais que l'idéal, c'est une vingtaine de personnes, entre 15 et 20 personnes.
Alors, moi, j'ai quand même une grande question. C'est qu'on parle beaucoup depuis plusieurs années, notamment depuis ce qu'on appelle la crise Covid, d'une quête de spiritualité, d'intériorité. Est-ce que vous, de là là où vous êtes avec voilà avec cette association au message, vous avez perçu, observé que justement il y avait un retour peut-être de personnes plus jeunes qui sont en quête de la parole de Dieu. Est-ce que vous avez constaté un changement à votre échelle?
Il y a un changement. Les premières années de message, c'était des chrétiens qui venaient et qui voulaient accéder à la Bible après Vatican.
Ah oui.
Ils voulaient connaître la Bible, comprendre la Bible.
Après le Concile Vatican II.
Voilà. Ils ont été un peu bousculés parfois parce qu'on leur expliquait des choses qu'ils n'avaient jamais pensées. Et maintenant, ce sont des gens, comme l'a dit Charbel, qui peuvent ne pas connaître, qui sont catéchumènes, qui cherchent et qui viennent en n'ayant aucune connaissance. On a tout à donner. Parce que les gens n'ont pas eu de formation quand ils étaient enfants, ou ils viennent de milieux où il n'y avait pas de formation chrétienne du tout.
Et alors, c'est plus facile ou...
L'animateur doit s'adapter.
Ce que je trouve très propice, on a dit l'importance de l'entrée esthétique.
Oui.
Mais il y a aussi, moi, ce qui m'a aussi plu, c'est la solidité exégétique. Il y a une approche quand même, il y a plusieurs entrées, mais il y a aussi vraiment cette actualisation avec nos vies aujourd'hui. Il y a une entrée vraiment exégétique. Le fondateur était un exégète.
Et à vrai dire, c'est un cocktail explosif qui existe presque nulle part ailleurs entre l'exégèse et la théologie. Et c'est le fait de pouvoir marier l'exégèse et la théologie ensemble qui fait que message est vraiment plus que jamais actuel aujourd'hui et il répond vraiment à la quête de beaucoup de personnes. On peut venir à une session de message sans savoir pas grand chose sur la Bible, c'est vraiment pas grave.
Sans même n'avoir jamais ouvert la Bible, on peut.
Exactement. Il y a des personnes qui ont peut-être chez eux un Bible de témoins de Jéhovah et qui vont être scotchés quand ils vont découvrir la Bible, la Tobe ou la Bible de Jérusalem, qui sont évidemment nos bases. Mais c'est une catéchèse qui est terriblement actuelle pour les gens. N'importe qui a une connaissance de notre foi peut venir. Et il peut avancer avec nous. Et je pense que ça, c'est terriblement important dans notre monde d'aujourd'hui.
Comment on fait pour vous contacter, participer? D'abord, est-ce que les rendez-vous, les sessions ont lieu à un rythme très régulier? Comment ça se passe d'un point de vue un peu concret?
Alors, les animations générales dans les régions, ça, c'est chaque animateur qui propose un week-end, des rendez-vous mensuels.
Il faut aller sur le site internet message-international.com. Voilà. Et là, on trouve le référent régional. Quoi.
On cherche Message France et on trouve ce qui se passe en France, par exemple. Et c'est l'art de nos formateurs, là, à la session, de nos animateurs, de proposer un timing, un déroulé qui va permettre à chacun d'être nourri selon ce qu'il lui faut.
Et au fond, à quoi ça sert peut-être que parmi nos auditeurs, certains se disent, moi j'ai la foi, je suis engagé dans ma paroisse. Mais j'ai pas l'habitude d'ouvrir la Bible et j'en ressens pas le besoin parce que le dimanche me suffit pour entendre la parole de Dieu. Vous entendez certainement que vous-même vous connaissez des personnes qui ont cette réflexion-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire?
C'est que dans la vie de chacun, il y a toujours un moment où on se pose des questions. Parce que l'homme est comme ça. Au fond de lui-même, il y a une graine de foi qui demande à pousser. Très souvent, c'est à travers un deuil, ou c'est à travers une difficulté peut-être professionnelle, ou il y a plein de raisons qui emmènent les gens à message. On ne sait pas trop pourquoi. D'ailleurs, c'est pas notre problème. L'important, c'est qu'ils viennent. Et effectivement, ceux qui sont à la maison et qui se disent « oui, j'ai pas envie d'aller plus loin, j'ai pas besoin », libre à eux de ne pas aller plus loin, c'est pas grave. Par contre, quand ils se posent des questions, nous sommes là.
Moi, je dirais qu'on vit une époque très très difficile. Je pense qu'on vit des années très très difficiles et qui vont sûrement aller comme ça, de pire en pire. Je pense qu'il y a quelque chose pour nous chrétiens. Il y a quelque chose à dire pour nous chrétiens. Il y a quelque chose à dire aux chrétiens, aux non-chrétiens. Et donc il y a une certaine urgence à la catéchèse, il y a une certaine urgence à retrouver pourquoi on parle de bonnes nouvelles. Pourquoi cette histoire, cette expérience, pourquoi notre Bible, pourquoi c'est une bonne nouvelle. Et donc je pense que
et la réponse est dans la Bible.
Oui, voilà.
Pour terminer cet entretien, j'aimerais bien que chacun de vous me disiez qu'est-ce que la parole de Dieu elle a apporté à vous, dans votre vie, dans votre cœur, dans votre foi, dans votre parcours personnel. Jane.
Eh bien, pour moi, le leitmotiv pour moi, c'est toujours Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et je puise dans la Bible, dans mon Lectio Divina, dans la liturgie des heures aussi, je puise toujours cette force, et c'est une force que vraiment j'ai envie de partager. Mmh. Je ne peux pas rester dans mon coin sans partager cette bonne nouvelle.
Voilà, ça se voit avec votre sourire, Jay. Martine.
Je serai plus brève, mais le Seigneur donne la vie en abondance, même si apparemment la vie n'a pas donné tout ce qu'on espérait.
Et moi, dans ces épreuves qu'on vit, dans ces épreuves, qu'il y a de la joie, un certain abandon et de la confiance.
Merci, merci beaucoup à tous les trois d'être passés dans les studios de Radio Présence ici à Lourdes, où vous êtes donc en studio. Martine, vous voulez rajouter quelque chose?
Le titre de notre session, Les femmes dans la Bible, on ne va pas faire le tour de toutes les femmes. On va prendre quelques femmes essentielles et on arrive à Marie et Bernadette. Et nous sommes très heureux d'avoir cette session-là à Lourdes, parce que nous allons vivre aussi des temps avec le sanctuaire. C'est très chouette de voir comment Bernadette rejoint les expériences du peuple d'Israël.
Eh bien, merci pour ce clin d'œil qui va évidemment toucher le cœur de nos auditeurs bigourdants, Marie et Bernadette, deux femmes de choc ici à Lourdes et en Bigorre. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus merci à Radio Présence.
Radio Présence à Tarascon-sur-Ariège, 100.2. Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
On va s'intéresser aujourd'hui au tourisme pêche avec Cédric de l'Office de tourisme de Lourdes. Bonjour Cédric.
Bonjour à tous.
Le département des Hautes-Pyrénées qui est reconnu au niveau national avec plus de 2500 km de rives adaptées à la pêche. C'est un magnifique endroit, un magnifique terrain de jeu pour les pêcheurs.
Oui, tout à fait. On a une chance au cœur des Pyrénées d'être bercé par le Gave de Pau, qui est un territoire reconnu quasiment à l'international pour la pratique de la pêche de la truite, qui attire moult pêcheurs tout au long de la saison de pêche de mars à septembre. On a la chance d'avoir un chevelu de torrents de montagnes qui convergent vers Lourdes et pour alimenter la rivière principale, le Gave de Pau. Cette rivière est reconnue pour la pêche de la truite et notamment sur la pratique de la pêche sur des spécimens un peu hors norme en termes de taille et c'est pour beaucoup de pêcheurs en fait, le Graal c'est venir pêcher dans le Gave de Pau pour essayer de prendre une truite aux mesures exceptionnelles.
Alors dans les Hautes-Pyrénées il y a évidemment le Gave, vous l'avez dit, mais il y a aussi des lacs, plus de 190 lacs, et parmi ces lacs il y a le lac de Lourdes.
Oui, le lac de Lourdes en fait qui est notre poumon vert à Lourdes, hein, qui se situe à l'entrée de la ville. C'est un lac naturel exceptionnel d'environ 40 hectares d'origine glaciaire, donc complètement naturel. C'est l'une des exceptions dans le territoire hein, sur ces lacs de plaine, puisqu'on a l'habitude d'avoir des lacs de barrages de 10 collinaires pour l'irrigation. Celui-ci, non. En fait, c'est vraiment un lac naturel qui attire d'autres types de pêcheurs, puisqu'en fait, on a des espèces sur ce lac qui sont emblématiques, notamment les espèces carnassiers comme le brochet, le cendre ou la perche, les espèces d'accompagnement comme le gardon, la tanche ou la carpe, qui permettent en fait à tout un chacun de venir en famille pratiquer la pêche à la ligne sur les bords du lac de Lourdes, et avec la possibilité également d'avoir différents types d'activités pour toute la famille, hein, puisque le lac de Lourdes est reconnu aussi pour la pratique de la rando, la pratique des sports aquatiques, hein, comme du paddle, du canoë, et chacun trouve en fait son activité, son loisir qui lui correspond au lac de Lourdes.
Donc c'est autorisé de pêcher sur le lac de Lourdes avec dans un instant des différentes, on expliquera les cartes qui existent pour avoir les autorisations, mais à noter également qu'il existe des parcours thématisés avec par exemple des parcours enfants ou bien encore des parcours initiation.
Oui, c'est la chance que l'on a aussi à Lourdes hein, avec le dynamisme des associations de pêcheurs locaux, la possibilité de proposer à nos touristes pêcheurs des parcours adaptés. On a des parcours notamment enfants vers le jardin du parc du Baracele, qui est un endroit sécurisé qui permet en fait de découvrir la pêche à la ligne. On a des parcours dits parcours loisirs qui permettent aux pêcheurs débutants dans le secteur de la Rouza de capturer les premières truites sur le Gave de Pau, et d'autres parcours dits un peu plus sportifs, dits no kill, là juste à la sortie de la ville, qui en fait sont des parcours sur lesquels on va rechercher des espèces, des poissons avec peut-être des dimensions un peu plus grandes, des poissons qui sont un peu plus difficiles à capturer et qui sont par contre en pratique du no-kill, c'est-à-dire qu'en fait tous les poissons qui sont capturés sont remis à l'eau, voilà, pour préserver aussi l'espèce.
Alors pour pouvoir pêcher, eh bien il faut des autorisations et je crois qu'il existe des cartes hein, qui permettent donc de pêcher à la journée ou à la semaine.
Exactement. Il existe en fait différents types de cartes de pêche qui sont vendues à l'office de tourisme d'ailleurs. Des cartes de pêche à l'année pour les pêcheurs récurrents et réguliers. On a aussi pour le public touristique qui est de passage et qui veut se lancer à la pêche à la truite, des cartes de pêche à la journée qui sont de l'ordre de 18 euros à la journée ou à la semaine pour un prix de 36,50 €. Pour la famille, il existe aussi des cartes pour les enfants de moins de 12 ans ou des cartes pour les mineurs entre 12 et 18 ans, ce qui permet en fait d'avoir des cartes hebdomadaires, de faire une pratique en pleine nature à moindre coût.
Est-ce qu'il y a une attractivité de la pêche dans le département des Hautes-Pyrénées? Est-ce qu'il y a des touristes qui viennent exprès pour pêcher à Lourdes ou bien aux alentours de Lourdes?
Oui, tous les week-ends, en fait, toutes les fins de semaine, et notamment sur la période, l'ouverture de la pêche au mois de mars, on a l'habitude de voir en fait des véhicules immatriculés d'un peu partout de la France et surtout du Grand Sud-Ouest qui viennent spécifiquement, qui font des heures de route pour passer une journée ou deux jours au bord de l'eau pour venir chercher, pêcher sur le secteur. Petite anecdote, la semaine dernière à l'office, on a une personne, un touriste de passage qui venait de Lettonie, qui avait entendu parler de la pêche dans le Gave de Pau. Et pendant son voyage, s'est arrêté pour acheter une carte de pêche chez nous pour pratiquer la pêche à la truite chez nous.
Alors, ces activités, on peut les faire seul, mais on peut les faire également en étant accompagné par des professionnels, par des guides probablement qui peuvent accompagner les néophytes.
Exactement. On a également la chance d'avoir des professionnels sur le secteur. Aujourd'hui, on en a 3 qui sont référencés à l'Office de tourisme de Lourdes sur nos supports, qui ont leur propre spécialité. Je vais les citer par les prénoms. On a Xavier, on a Pierre Adrière et on a Clément, qui accompagnent en fait des touristes pêcheurs tout au long de l'année. Des pêcheurs, même des locaux, qui veulent en fait affiner leur technique pour pouvoir découvrir ces rivières avec des gens qui ont une grande maîtrise technique et qui surtout s'adaptent en fait au niveau et aux attentes des pêcheurs avec certaines spécialités. Par exemple, Pierre Adrien, lui, accompagne beaucoup de jeunes, notamment sur des bivouacs en montagne, de la découverte de la pêche en montagne avec un peu de trek, un peu de bivouac et une pratique en pleine nature pendant un jour, deux jours, trois jours. Clément, lui, est beaucoup sur le Gave de Pau. Et nationalement reconnu par rapport à la traque de ces truites du Gave de Pau. Et Javi, en fait, lui est spécialisé notamment sur la traque des poissons carnassiers, notamment sur le lac de Lourdes. On a la chance de pouvoir le voir sur le lac de Lourdes.
Voilà, et on les salue s'ils nous écoutent. Voilà les activités donc autour de la pêche. Vous l'avez dit, plus de 2500 km de rivière dans les départements des Hautes-Pyrénées, plus de 190 lacs. Bref, une activité à découvrir ou à redécouvrir. Et un grand merci à vous, Cédric. Vous êtes vous-même pêcheur.
Exactement.
Voilà. Donc on avait avec nous un spécialiste de la pêche pour cette chronique Balade en Pays de Lourdes. Un grand merci et à très bientôt.
Merci beaucoup.
Balade en Pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
Il était 5h du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneur en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les soit sauvage. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs.
Radio Présence à Luchon, 94 FM.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Gardez l'espérance en Dieu et dans sa miséricorde, c'est le souhait dressé par le chef de l'Église grecque catholique.